Oui, merci. Alors, plus que des commentaires, moi, je voudrais revenir un petit peu sur tout ce qui a été dit. Peut-être d'abord de ce matin, on a vu des aspects très pratico-pratiques de la finance. J'ai en particulier, et j'y reviendrai peut-être, Aimé, mais il est parti, les commentaires d'Éric Lamarque, qui a à la fois cette vision pratique et théorique. Mais moi, ce que je voudrais voir, ce sur quoi je voudrais revenir, c'est qu'on enseigne quand même, et j'ai beaucoup aimé pour ça l'intervention de Stéphanie à l'instant, une science qui se délite et une science qui se dont les piliers se craquellent à chaque coup de boutoir que peuvent leur donner certains iconoclastes dont beaucoup sont ici aujourd'hui. Pourquoi et comment et la raison essentielle est que la finance, c'est d'abord une science sociale qui utilise pour être étudiée des outils de sciences dures ou de sciences fondamentales, c'est-à-dire essentiellement de mathématiques et de sciences physiques. Je vous rappelle, ceux qui ne le savent pas, que vous avez un journal qui s'appelle quand même le journal d'éconophysique et qui est réservé à des physiciens qui font de la finance et de l'économie mathématique de façon plus générale. Et la différence entre leur science, j'ai envie de dire, et la nôtre, c'est que si ici on installait un système qui permettrait de lâcher une balle de ping-pong ou ce que vous voulez, elle mettrait du plafond jusqu'au sol, elle mettrait toujours très exactement le même temps pour y arriver à des conditions de... d'expérience identique, la même lumière, la même température, les mêmes pressions, la même vitesse de rotation de la Terre, etc. Vous allez retrouver très exactement au milliardième de seconde près le même temps. Si vous installez ici des traders, que vous leur donnez des conditions de marché, vous faites ce qu'on appelle un peu de finance expérimentale, et c'est quelque chose, une expérience que je voudrais faire, mais enfin, à l'université, on n'a pas les moyens de payer des traders pour... faire ce type de choses, mais vous les mettez, vous leur donnez un programme économique, un scénario, et vous faites faire ce scénario, vous leur faites coter, vous leur dites que la maximisation de leur portefeuille est l'essentiel, puis vous lancez les cotations, et à la fin de la journée, on va avoir un certain niveau de prix moyen des actifs. Puis si vous leur refaites faire ça un mois après, dans des conditions identiques, sauf peut-être que la veille auront fêté leur anniversaire ou au contraire se seront gueulés avec leur femme ou leur mari, que sais-je, eh bien il est fort probable que nous ne trouvions pas du tout les mêmes niveaux de prix des actifs. Donc on va refaire deux fois, trois fois, cinq fois la même expérience et deux fois, trois fois, cinq fois, on va retrouver des niveaux de prix des actifs qui sont différents. De la même manière, si on prend la comptabilité d'une entreprise de taille moyenne, on donne cette comptabilité à 20 experts comptables différents, et bien il est extrêmement probable qu'à la fin, on trouve 20 résultats comptables, certes peu, mais légèrement différents. Donc notre science, qui est la finance, ne peut pas être stricto sensu étudiée par des outils qui sont des outils de mathématiques et des outils statistiques, c'est-à-dire des outils de sciences dures. Alors si on revient un petit peu aux bases de la théorie financière, je vous rappelle que la théorie financière, et ça Yamina le disait ce matin, on est passé de la science sociale à la science dure à partir de la fin du 19e siècle, c'est-à-dire très exactement de la thèse de Bachelier en 1900. Et depuis, on a construit tout un corpus théorique financier. Et ce corpus théorique, il est fondé sur un certain nombre d'hypothèses qu'on connaît bien. Les marchés sont efficients. Les financiers sont des gens hyper rationnels. Les rentabilités des titres financiers sont distribuées suivant une loi normale. Les séries sont stationnaires, c'est ce que disait Christian Walter il y a 5 minutes. Les investisseurs n'ont d'autre but que de maximiser leur espérance d'utilité. Et leur espérance d'utilité, c'est la maximisation de leur profit. On est dans un monde d'absence d'opportunités d'arbitrage. Le problème de l'expected rate of return, c'est-à-dire de la rentabilité attendue ou de la rentabilité exigée, et c'est très important de savoir comment est-ce qu'on traduit ce mot expected. Est-ce qu'on le traduit par espéré, attendu ou exigé? Ça change tout en théorie financière. Qui fixe, j'ai envie de dire, la rémunération minimale demandée par les actionnaires, et ainsi de suite. Alors, je ne vais pas terminer, mais déjà sur ces quelques petits points, on s'aperçoit que les marchés ne sont pas efficients. Hein, ils sont globalement efficients, mais si on regarde avec une loupe, on s'aperçoit que plus on va regarder de près, moins on va trouver des marchés efficients. On s'aperçoit que les financiers ne sont pas des gens plus rationnels que les autres. Et là, on a toute la théorie et tout ce qui concerne la finance comportementale. Veyman et les deux auteurs traditionnels de finance comportementale. Enfin bon, les financiers ne sont pas plus rationnels que les autres. Donc on n'est pas dans un monde de rationalité absolue. Les rentabilités des titres financiers ne suivent pas une loi normale, hein, plutôt une loi leptocurtique. Donc on ne peut pas utiliser la volatilité, on ne peut pas utiliser l'écart type pour mesurer la volatilité et le risque des titres financiers. Les séries ne sont pas stationnaires. Alors on va utiliser des modèles Arch, Garch. À chaque fois qu'on trouve qu'on met à bas une hypothèse, on trouve le petit modèle mathématique supplémentaire qui répond plus ou moins globalement, plus ou moins partiellement à la question. Mais les séries ne sont pas stationnaires. Hein. On parle toujours de saut de volatilité. Les investisseurs peuvent avoir d'autres buts que de maximiser leurs profits. C'est tout l'enjeu de la finance durable aujourd'hui, où les investisseurs, certes, ils veulent avoir le meilleur profit, mais pas uniquement sous la contrainte de risque. On va rajouter une deuxième contrainte qui va être, par exemple, la contrainte ESG ou la contrainte environnementale. Et ça, on n'a pas dans nos modèles, on a des modèles d'optimisation avec une seule contrainte, pas avec deux ou trois contraintes. L'absence d'opportunité d'arbitrage, on en a parlé tout à l'heure, il y a sur des marchés des opportunités d'arbitrage. Et enfin, le dernier problème sur lequel je revenais, l'expected rate of return, on va, et là je rejoins tout à fait ce que disait Stéphanie tout à l'heure, on va dire à certains étudiants, ah mais vous savez, pour calculer le coût du capital d'une entreprise, on va prendre le coût des capitaux propres et le coût des dettes. Alors bon, le coût des dettes, on connaît, mais le coût des capitaux propres, on va prendre quoi ? On va prendre le coût, la rentabilité exigée par les actionnaires pour qu'ils acceptent d'investir dans l'entreprise. Très bien. Bon, on fait le cours, terminé. Deux cours après, on leur explique que, toujours par rapport à la même théorie financière, les actionnaires sont des créanciers résiduels de l'entreprise. Ah bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est ceux qui récupèrent tout ce qui reste quand on a payé tout le monde. Parfait. Donc le coût des capitaux propres, c'est zéro. Parce que quand vous êtes celui qui récupère ce qui reste quand tous les autres ont été payés, ça veut dire que vous attendez peut-être quelque chose, mais vous n'êtes en droit de ne rien exiger. Donc à partir de ce moment-là, le coût des capitaux propres est nul. Donc ça remet en cause tout le calcul du coût du capital. Donc la traduction de ce mot « expected », selon que vous estimiez qu'il s'agisse d'une rentabilité exigée ou d'une rentabilité espérée ou d'une rentabilité attendue, j'ai envie de dire, ça change tout. Donc finalement, cette maison, cette théorie financière qui a été élaborée sur des modèles quasiment uniquement mathématiques, statistiques et presque physiques depuis les années 60, est en train de tomber. Alors on va me dire, mais c'est bien de dire, de démolir, de dire que la théorie financière, les piliers de la théorie financière s'écroulent, donc la théorie financière moderne est en train de s'effriter, ce qui d'ailleurs fait écho à un certain nombre de choses, puisque même si les professionnels regardent de loin ce que fait la théorie financière, les professionnels utilisent quand même pas mal les conclusions de la théorie financière pour justifier d'un certain nombre de choses. Donc si on détruit la théorie, on remet également en cause un certain nombre de pratiques, ne serait-ce que la gestion de portefeuille, ne serait-ce que la comptabilité, etc., etc. Le problème est qu'aujourd'hui, en termes de théorie financière, on n'a rien pour remplacer ce paradigme qui est en train de s'effriter. On n'a pas de modèle global de remplacement pour répondre à un besoin théorique qu'on pourra avoir pour, entre guillemets, refonder la finance. Alors on a des petites choses, on a des propositions comme la comptabilité CARE, voilà une proposition de nouvelles possibilités. j'ai envie de dire, de reconstruction de la finance sur d'autres bases. Mais on est à un moment où on a, à mon sens, un petit peu tout détruit, où on cherche de nouvelles bases, mais malheureusement, elles ont du mal à s'imposer. C'est pour ça que je répondrai, même s'il n'est pas là, à Éric Lamarck ce matin quand il parlait de son modèle de risque et qu'il disait « Mais qu'est-ce que vous me proposez à la place de ce que vous avez ?» Ben, pour le moment, on ne vous propose rien. Et c'est là un petit peu où moi j'ai un problème et où je demande, bah oui, on n'a plus, on enseigne à des étudiants une théorie qui s'effrite, mais on n'a rien à leur proposer en contrepartie. Voilà ce que j'aurais un petit peu envie de dire pour lancer le débat.